Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif.
Je cherchais pas à me démarquer en fait. J'essayais d'être moi, toujours souriante et joyeuse, mais surtout authentique. T'as ton esprit qui te dit, mais attends, mais j'ai un job en or, ça va pas la tête, tu te plains pas, t'y vas. Donc j'y vais. Et en fait, à un moment, c'est le corps qui lâche. Au bout de 18 ans, il s'est passé un truc, j'avais plus envie de me lever. J'aimais plus ça en fait. J'ai repris confiance en moi et je me suis rendu compte que la personne qui me mettait des bâtons dans les roues, en fait, c'était moi. Il n'y a pas un jour où je me dis que j'ai pas fait le bon choix. Pour moi, le vrai luxe, c'est de se poser. Moi, quand je vois une personnalité, j'ai envie, c'est quelqu'un qui m'intéresse, de l'entendre dérouler sur des sujets inclusifs, qui parlent aux gens, avec des belles valeurs. Je trouve que le luxe, le vrai luxe, c'est le temps. En 2018, j'ai fait un burn-out plus. Et en fait, je voulais pas me l'avouer.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hotel. Le Soli Hotel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon-de-Cos, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon-de-Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables avec des parcours très différents mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en collaboration avec le Soli Hotel. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Bouteloup et je suis très heureux de te recevoir, Charlotte. Comment tu vas ?
Salut François, ça va bien, il y a la clim, on est au frais ?
On est très bien.
On l'a pas dit, mais il fait chaud dehors.
Exactement, on est en plein mois de juillet, cet épisode sortira entre septembre et octobre. Effectivement, il fait très chaud, mais on a la clim, donc on est très bien. On va pouvoir avoir un bel échange ensemble. Charlotte, tu es serial intervieweuse. On est dans Serial Entrepreneur et tu es une serial intervieweuse, donc on est bon. Tu es journaliste télé, radio, mais aussi sur les nouveaux médias, on aura l'occasion d'en discuter. Tu es une passionnée de cinéma, tu as fait beaucoup de chroniques dans le cinéma. Ma première question que je pose sur chaque épisode, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ?
Une banlieue proprette de l'ouest parisien, dans les Yvelines, à la Selle Saint-Cloud, où toutes les maisons étaient pareilles, un peu comme dans Wisteria Lane, Desperate Housewives. Voilà, dans un milieu bourgeois, j'étais dans des écoles strictes de filles, où on a des uniformes, pour essayer de peut-être de cadrer un peu ma personnalité. Voilà, et puis après une pension, deux filles, dans la forêt de Compiègne. L'uniforme, c'était un kilt, hein, cette fois-ci, donc c'était très straight. Mais c'est là où je me suis le plus amusée.
Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ?
Ouais, le cheval. Le cheval est très vite les sports mécaniques. La moto, la bagnole, ça, c'était parce que mon père adorait ça. Mais le dada. Et d'ailleurs, c'est de famille. Ouais. Ça a commencé de toute petite et ça continue.
Comment est-ce que tu vis tes études ?
Je me dis, j'attends que ça passe en fait. Je suis très contente d'avoir mes copines, j'adore sortir, mes copains. L'école, j'ai trouvé ça très pénible parce que j'ai été élevée avec la technique dans ces écoles-là du stylo rouge. C'est toujours peu mieux faire, c'est jamais assez bien. Aujourd'hui, je trouve ça génial, mais j'envie beaucoup les enfants qui ont la chance d'avoir la technique du stylo vert où on les encourage. Moi, et ça, je trouve que je fais attention avec mes filles aujourd'hui, justement, ça casse beaucoup les enfants, quoi. Quand on leur dit, je parle pas de mes parents, hein, là, je parle des profs. que c'est jamais assez bien, que t'es une bonne à rien, que donc j'ai pas hyper bien vécu la scolarité. Après les études, moi quand j'ai passé mon bac, en fait je voulais être actrice, et j'avais des parents qui disaient, ils ont sûrement raison, que c'était pas un vrai métier, que c'était trop, c'était touchy, c'était dangereux, qu'il fallait faire des vraies études. J'étais pas une flèche à l'école, donc j'ai pas fait une grande école de commerce, mais j'ai fait une école de commerce après bac parce que je voulais un truc hyper généraliste pour avoir le choix après. Donc j'ai fait un truc un peu orienté communication marketing. Et puis donc j'ai lâché complètement l'idée d'être actrice, pas l'envie, mais l'idée. Bon, après on va comprendre que j'ai vécu ma passion par du cinéma par procuration en interviewant des gens qui faisaient le métier donc que je rêvais de faire. Et puis ce qui est génial dans les études supérieures, comme tu le sais, c'est qu'il y a des stages. On fait des stages. Donc j'ai fait plusieurs stages, un stage à TF1 au service de presse. Je me suis emmerdée, aucun intérêt. Et France Inter, un stage, et ça c'était pas mal parce que c'était à mon avis un job déguisé hein, déjà, parce que c'était un job utile. J'étais programmatrice dans une émission culturelle, donc j'aidais l'animateur à trouver les invités, je faisais des fiches. Quand l'invité était là, ça allait de lui servir du jus d'orange, mais aussi préparer des questions d'interview. Et donc j'ai découvert le monde de la culture. On avait des ministres, des écrivains, des acteurs. Moi qui venais d'un milieu quand même très bordé, très catho, très market, j'étais pas du tout dans cette veine, j'avais pas cette veine culturelle. Et ça, ça a été comme un éveil, quoi. C'était super. Et puis un jour, William Lémergie, donc le producteur et l'animateur de Télématin, me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais demain? Et je lui dis, rien. Viens passer un casting à France 2. Parce qu'il avait une émission sur Inter et Télématin sur France 2. J'ai ma chroniqueuse ciné qui part en congé maternité. C'était Maïté Nabiraben, qui faisait donc le cinéma Télématin. Et je cherche une remplaçante. Tu seras pas toute seule, il y en aura d'autres. Et moi, j'étais là, mais j'ai jamais fait de télé. C'est quoi ? Tu me parles d'un film que t'as vu et que t'as aimé, qui est en salle. Il me prévient la veille pour le lendemain. J'avais pas été au Cinoche. Et le lendemain, j'arrive à France 2, sous mes airs de... Je suis assez timide, en fait.
Ça se voit pas du tout.
Ouais, je vacillais. Tu vois. Et donc, je lui ai pitché, j'ai parlé d'un film que je n'avais pas vu. Donc, la grosse escroquerie. Hein. C'était le remake de Abfab, un très mauvais film avec Josiane Balasco et Nathalie Baye. Bon, après, c'était un casting, donc ça n'a pas été diffusé. J'ai pas été escroc jusqu'au bout. Le lendemain, c'était La chaîne t'a kiffé... Et ça s'est fait comme ça, pur hasard. Et là, j'ai commencé, ça a duré 18 ans, à me lever à 5 heures du mat, à être en direct, parce qu'il y a très peu d'émissions en direct, sur France 2, à parler de cinéma. Donc c'était un pur hasard.
Pour revenir un peu avant, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du journalisme? Est-ce que c'est t'y aller par défaut,
ouais,
en disant
j'y suis allé par défaut.
Le cinéma, c'est pas possible?
En fait, c'est vraiment un heureux hasard. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas eu un job après France Inter? Je pense que j'aurais sûrement dépéri, mais bon, dans la com, ou tu vois, un truc de market, où j'aurais été attachée de presse dans le luxe. Non pas, attends, c'était super job, mais j'aurais pas été heureuse. Est-ce que j'aurais eu du courage, parce qu'il en faut, et j'aurais finalement pris des cours de théâtre? Peut-être que j'aurais été une très mauvaise actrice. Peut-être aussi que j'aurais pu en vivre. Voilà, c'est le seul truc où je sais pas. Mais ça, en fait, plus tu apprends, plus tu connais, plus tu aimes. Donc la culture, un coup je lisais des bouquins. On avait Jean d'Ormesson qui venait le lendemain. Je lisais le bouquin une semaine avant. Je préparais des questions. Donc ça t'ouvre plein de champs, en fait. Et c'est après que j'ai découvert le plaisir, le trac et l'art de l'interview.
Du coup, le point de départ de ta carrière, c'est William Lémergie.
Ouais, c'est Télématin. En marge de Télématin, après, j'ai eu des chroniques. Là, ça n'avait rien à voir avec le cinéma, sur France Inter et sur RTL, entre autres avec Stéphane Bern, où là, je faisais des billets d'humeur. À l'époque, les gens devaient me trouver drôle. On me demandait de parler de trucs dans l'air du temps. Et j'étais tellement traqueuse. Mon Dieu, mais j'étais tellement traqueuse. Je bossais comme une cintrée. Je dormais quasiment pas de la nuit. Hein. Et j'arrivais le lendemain en mode escroc. Ça se voyait même pas que j'avais le trac. Mais en fait, je travaillais vachement. Et même mes interviews, je les bosse. C'est un truc de fou. Je me suis jamais habituée Je suis plus sereine, c'est vrai, mais je suis toujours traqueuse. Et l'antenne, le direct, le matin, ça, c'était, c'est quand même un espèce de délire, hein, le direct. Hein. Surtout à ces heures-là, à 7 heures du mat, t'es priée non seulement, t'es une nana, d'avoir une bonne tête, hein, parce qu'on est quand même dans un monde de l'image, et puis c'est quand même le patriarcat. Hein, les nanas sont censées être jolies un minimum, donc fraîches le matin. Et puis alerte quoi au taquet, ça a été une grande école.
Donc chronique quotidienne.
Alors 3 fois par semaine, c'était déjà beaucoup. Hein.
3 fois par semaine. Donc ouais. À chaque fois, c'était quoi ton rythme de travail, tu vois?
Alors je fais ma chronique, je me lève à 5h, je fais ma chronique. J'avais plusieurs passages dans l'émission, donc ça devait être je sais pas moi 7h moins le quart, après 8h30, après 9h15. Je sors de l'antenne, j'enquille sur un ou deux films dans la journée. Donc ça prend du temps. C'est un grand plaisir, pas toujours, hein, parce que tu vois des daubes. Hein. Tu vois des beaux films, mais tu vois des daubes. Et t'es complètement déphasé. Il est 2h de l'après-midi, tu sors du cinéma, t'as vu un film tchèque à 10h du mat, et tu vas voir un film à 14h, t'as l'impression d'être... Et après, une interview. Donc c'était des journées hyper intenses. Et puis accessoirement, après, j'ai été maman. Donc fallait tout concilier. Après le kiff, c'est que je bossais beaucoup de chez moi, j'écrivais de chez moi. France 2, j'y allais que pour faire mes chroniques. J'y avais pas de bureau, par exemple là-bas.
Ok.
C'est une grande liberté. C'était aucun jour ne se ressemble. Un jour t'interviews Tom Cruise, le lendemain ça va être Jean-Pierre Darroussin, après ça va être Charlize Theron et après ça va être Depardieu. Et puis les films, extraordinaires quand même. Je trouve que t'apprends beaucoup avec le cinéma en fait. Quand tu vas voir un bon film.
Deux sujets, des chroniques et des interviews. Deux formats complètement différents.
Ouais.
Comment est-ce que tu travailles l'un et l'autre?
Alors, la chronique, j'essaie de faire un peu le qui, que, quand, quoi, avec, pourquoi. Donc, de quoi ça... En fait, vulgariser à mort en te disant que... Alors, toi, serial entrepreneur, tu parles beaucoup à des experts qui connaissent. Moi, France 2, c'était une émission très grand public. Hein. À l'époque... T'étais peut-être pas né, mais il n'y avait pas toutes ces chaînes et toute cette offre. Il n'y avait pas encore la 5, hein, tu vois, c'est te dire, qui n'existe plus d'ailleurs depuis. Donc, on faisait 45% de part de marché, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire presque un Français sur deux regardait télé matin le matin. Et tu t'adresses à 2 millions, 3,5 de personnes tous les matins. Et donc, tu te dis, ces gens-là, ils viennent de tous bords. Ça se trouve, ils vont pas au cinéma. Ils viennent de tous milieux confondus. Donc, en fait... La moindre des choses, c'est de leur dire, de leur parler normalement, de pas se prendre des grands airs, tu vois. On n'est pas dans Télérama, par exemple. Bam, je le dis.
Petit tac.
Voilà. Moi, j'ai pris le parti, et William était d'accord avec ça, de pas désinguer les films. J'ai dit, on a 3 chroniques par semaine. Il y a entre 14 et 17 films qui sortent par semaine. On va plutôt dire aux gens qui ont déjà leur galère dans la vie et tout, quoi aller voir. Et c'était un truc très positif déjà. Voilà. Ça, j'ai kiffé, aller voir ça. Parce que voilà, donc c'était de quoi ça parle, qui sont les acteurs, pourquoi est-ce que j'ai aimé. Et après, l'interview de l'acteur, c'était très court, hein, c'était très frustrant. Hein. Ça aussi, c'est un job.
C'était quel format?
Eh ben, l'interview, elle faisait 3 minutes. Je l'ai rencontré 10 minutes. Et après, au montage, t'es là et tu te dis, quand t'as des types, y a rien à acheter. C'est très frustrant, tu vois. Il faut faire un choix. Et très vite, en fait, j'ai pris le parti de ne pas garder vraiment les choses qui concernaient le film dans l'interview. Je me suis dit, pas choquant, c'est pas grave. C'était entrecoupé d'extraits de bande-annonce et de films. Mais tiens, par exemple, Depardieu, entre-temps, il va me parler de son amour pour la littérature russe ou de l'andouillette qu'il a bouffée et qu'il a adorée. Tu vois, j'essayais de pas coller au film, de pas en faire un truc de spécialiste que cinéma. C'était pas Première Magazine, tu vois. T'as aussi bien des instits que des agriculteurs, que des mecs de la finance. Ils se lèvent le matin, ça les fait marrer de voir un acteur qu'ils aiment bien. Ils ont pas nécessairement envie qu'on leur parle de Cinoche. Donc moi, après, je pitchais le film, je disais pourquoi j'avais aimé. Parfois, le film était pas extraordinaire, mais j'avais des petits codes dans ces cas-là, je disais... c'est pas son meilleur film, mais on passe un bon moment. Ouais, parce qu'après, tu vas pas désinguer le film alors que t'as l'interview.
Bien sûr.
Avec une sommité, tu vois, c'est gênant. Et puis, les attachés de presse ont la mémoire longue. Donc après, là, j'ai quelques petites déconvenues comme ça. Ouais, donc ces deux exercices, il y a la chronique et l'interview.
sur l'exercice de l'interview qui m'intéresse tout particulièrement puisque c'est un format que je fais sur un format beaucoup plus long que comme tu as pu
Mais ouais, bravo d'ailleurs parce que ça a une heure et demie, faut avoir la forme, hein.
Si t'avais pu avoir une heure et demie avec Depardieu, tu les aurais... Tu
ouais, mais j'aurais bien bossé mon interview, tu vois.
Ouais, ouais. Non, c'est clair. Comment est-ce que tu fais justement sur un format très court, du 3 à 10 minutes, comment tu fais pour te démarquer des autres journalistes qui vont avoir ce même timing avec cette personnalité? Est-ce que tu cherchais à te démarquer ou est-ce que tu disais je vais rester moi-même et...
Je dis pas que c'était plus facile, mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile. On était beaucoup moins nombreux. Donc je cherchais pas à me démarquer en fait. J'essayais d'être moi, toujours souriante et joyeuse, mais surtout authentique. Non, j'ai jamais cherché à me démarquer. Aujourd'hui, j'essaie plus parce que tu vois bien, hein, tout le monde peut faire ça et c'est ce qui est génial. Et il faut un petit peu sa petite patte. Non, j'essayais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais une bonne relation avec les talents. Il y a beaucoup d'émissions qui sont d'ailleurs très drôles, mais on se fout un peu de la gueule des acteurs ou grâce à un montage, on leur fait dire un peu des trucs sortis du contexte. J'ai jamais fait ça. J'aurais pu, et même parfois j'avais des gens connus qui s'embourbent ou qui font qui sortent un truc qu'il faut pas sortir. Tu vois, je gardais pas. Ouais. Et donc, les gens ont la mémoire longue dans le milieu du moins, et ils savent que je suis bienveillante. Ça veut pas dire lisse. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour. Voilà, je les prends pas en traître.
Comment est-ce que tu vois l'évolution des médias et l'évolution de ta carrière en parallèle sur ces 20 ans de carrière finalement?
Alors ça, c'est une vaste question parce que alors l'évolution des médias, ce qui est génial, c'est que maintenant tout le monde peut monter son propre média. Il y a une offre hallucinante. Après, alors c'est vrai, il y a tous ces nouveaux médias que j'adore, hein, Brut en numéro un.
Pour qui t'as travaillé aussi?
Ouais, enfin. Avec lequel j'ai collaboré, hein, j'étais pas payé. C'était un échange pendant le Covid, tu vois. Tout le monde, ils testaient leur nouvelle appli Brut Live. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, ce que je regrette un peu, c'est, contrairement à ce que tu fais, et vous êtes pas très nombreux à le faire, et on n'est pas très nombreux à le faire, c'est de se poser. Pour moi, le vrai luxe, en fait, c'est de se poser. Et ces médias, ce qui est génial, ces nouveaux médias, je vois mes enfants, elles regardent jamais la télé, hein. Nous, il y a une télé, on la regarde pas. C'est les infos sur TikTok, c'est Brut, c'est Combini. Et donc, ça va, straight to the point. Mais, moi, quand je vois une personnalité, j'ai envie, si c'est quelqu'un qui m'intéresse, de l'entendre dérouler sur des sujets inclusifs qui parlent aux gens avec des belles valeurs. Je trouve que le luxe, c'est vrai, le vrai luxe, c'est le temps, si tu veux. Et moi qui regarde plus la télé, il m'arrive de me faire un replay. Par exemple, il y a une émission que j'aime bien qui s'appelle C'est à vous, qui est pour moi vraiment la meilleure émission. Bon, quand il y a un acteur ou une personnalité que j'aime bien, je me fais le replay. Mais sinon, je ne regarde plus la télé. Et je me suis fait avoir avec TikTok. C'est complètement addictif, en fait, l'algorithme. Il est hallucinant, de ce truc-là. Au début, je m'étais inscrite sur TikTok pour regarder un peu ce que faisaient mes filles, mes ados, pour checker comme ça. Et je me suis abonnée à 2-3 trucs d'équitation, de sport aussi, parce que j'aime bien, de trucs de skincare routine, parce que je suis une nana et que je prends soin de moi. Et là, encore plus qu'Insta. Je suis comme ça, je scroll et j'ai que du contenu, soit qui me fait marrer, mais qui m'intéresse. Et en fait, je trouve ça très dangereux parce que je passe beaucoup de temps, je sais pas toi, mais sur les réseaux. Beaucoup. Et j'ai même la vue qui baisse.
Et t'as même créé ton compte TikTok.
Ouais. Alors, on va pas se mentir, je décolle pas. Hein. J'ai 7000 abonnés sur TikTok, je poste pas du tout assez. Donc je suis pas encore très 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 à l'aise. Mais j'ai remarqué que ce que je postais sur TikTok, ce qui marchait le plus, c'est pas tellement mes acteurs qui me parlent de cinéma, c'est mes acteurs comme Cluzet qui va me parler de la planète. Là, ça a performé. Gad Elmaleh qui va me parler de la Coupe du Monde du Maroc. Ça cartonne. ou Marc Simoncini qui va me parler d'entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, je pense que les jeunes, le fait de dire jeune, déjà, ça fait vieille, mais c'est comme ça, ils veulent plus qu'on leur parle bullshit, en fait. Ils veulent voir des trucs vraiment qui les intéressent. Pas des, tu vois, tu parlais de Vivement Dimanche tout à l'heure, l'émission de Michel Drucker. J'ai rien contre, mais ça marche plus, tout ça. Enfin, je veux dire, pas pour des gens qui sont en âge d'être sur les réseaux sociaux. Mmh. Même les promos, les acteurs en promo. Bon, ben moi j'essaie. On fait trois phrases sur le film sortant. Dites-moi ce qui vous plaît dans le script. Et puis voilà, c'est pourquoi vous aimez le réal. Très vite, j'essaie de les emmener ailleurs.
Ouais, non, mais on voit de plus en plus de formats émerger. Ouais. Et pour revenir à ta carrière, qu'est-ce que tu retiens justement de toutes ces années à la télé, à la radio?
Bah, en fait, maintenant que je regarde, je me dis, Charlotte, en fait, tu peux être fière de toi, parce que en fait, j'étais tellement dans l'action et puis j'ai tellement été élevée avec toutes ces écoles dans le truc de c'est jamais assez bien, peut mieux faire, je me suis même moi-même mise des bâtons dans les roues. Je me dépréciais un peu, en fait. Alors qu'il y avait des gens, c'est génial ce que tu fais. Enfin, je veux dire, c'était une émission très populaire. Moi, j'étais là, limite, je m'excusais un peu de faire ce que je faisais. Au bout de 18 ans, j'ai décidé, bon, William Lémerger est parti, j'ai un peu continué avec une nouvelle équipe, un nouvel animateur. Ça avait changé, mais ça se passait bien. Et il s'est passé un truc, je sentais, j'avais plus envie de me lever, en fait. Et pas parce que j'étais fatiguée physiquement. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je pense que j'ai mis un an et demi. J'aimais plus ça, en fait. J'aimais plus ça. Je m'y retrouvais plus. Le format était moins le même. J'avais moins le temps de m'exprimer. Et surtout, j'avais plus envie. Donc, contre toute attente, j'ai stipulé à ma chaîne que je voulais partir. C'était un gros truc, hein, parce que j'étais quand même, j'avais un super job, j'étais très gâtée. Tu fais ça pendant 18 ans, c'est ta famille, tu vois. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, je peux plus. J'ai découvert après, merci les médecins, parce qu'un jour, j'ai fait un malaise sur un tournage, en fait, que j'étais en... Et ça se disait pas trop à l'époque, hein. C'était donc en 2018, j'ai fait un burn-out plus. Et en fait, je voulais pas me l'avouer. Donc, je turbinais, j'étais happy face tout le temps. Et puis, à un moment, bah, tu vois, j'ai fait un malaise sur un tournage. Et là, je me dis, j'arrête. Ma chaîne me fait une belle proposition. Vous êtes sûr de pas vouloir rester, Charlotte? Non, non, vraiment, j'ai envie de faire autre chose. Et j'étais persuadée, j'étais Madame Cinéma de France 2 quand même, hein, que j'allais me reloquer direct dans un autre média, un nouveau média ou... Mais là, mais même pas 10 jours après, on est confinés. Bon, ok, ça va durer 15 jours. Donc au début, c'est le confinement. J'étais en burn-out, donc je me repose. Je me dis, c'est un signal de l'univers. Il faut vraiment que tu breaks. Et en fait, les cinémas ne réouvrent pas. Il y a plus de chronique culture. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille me vendre? Donc deuxième confinement, là je fais rien. Là j'ai pour brut, ça me manquait l'interview, en fait. Je fais 2-3 lives à l'époque, on n'avait pas le droit de sortir de toute manière, donc sur l'appli, ça me plaît, mais bon, c'était le début de l'appli, ça performait pas. Et à un moment, tout le monde est déconfiné, les télés ont leur journaliste culture en CDI, ne veulent pas en faire travailler d'autres, parce qu'en fait on a découvert qu'on vivait très bien, on faisait très bien des programmes d'infos. Sans culture, c'est quand même ça l'histoire. Hein. L'émission, à part maintenant l'émission de Lescure sur France 2, globalement, les émissions de Cinoche, ça intéresse personne. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'ouvre mon spectre. Déjà, je vais pas faire que du cinéma, parce que j'adore ça. Mais les gens, en fait, le cinéma, déjà, il faudrait faire les séries. Et puis, surtout, non, je vais faire, en plus jeune, la Mireille Dumas de l'époque ou le Divan, tu vois. J'ai envie, c'est ça ce que j'aime. Et donc, je me suis dit, je vais pas non plus le faire gratos, il faut bien vivre. Donc, j'ai réfléchi et déjà, il me fallait l'accord de certains talents. Et tu sais, les acteurs et les actrices, même s'ils t'aiment bien, ils te disent oui aussi pour ton média.
Ouais.
Tu bosses pour France 2,
bien sûr.
Tout le monde te dit oui, quoi. Et là, c'est là où tu vois comme quoi j'ai bien fait de m'être bien comporté avec eux pendant toutes ces années. Le premier, c'était Cluzet. François Cluzet, je passe par son agent, son attaché de presse, et qui me rappelle et qui me dit, mais avec grand plaisir, François, ça lui fait plaisir de le faire avec toi. J'étais trop contente. Il faut que je me trouve des techniciens. Alors que normalement, j'avais une équipe de 5 personnes, un réalisateur, des chefs-op, des lumières, c'était Hollywood, une maquilleuse. Donc en fait, là, t'apprends tout, tu vois. Aujourd'hui, c'est très bien de le côté brut, ça fait vrai et tout. Mais moi, c'était pas comme ça. Nous, les tournages cinéma de Télématin, c'était Hollywood, mon image, c'était sublime.
Tu repars de zéro.
Je repars de zéro. Je découvre tout ça, je mets ça sur les réseaux. Et donc, je suis allée, ça a été un curieux hasard. C'est une boîte que j'aime beaucoup d'ailleurs, une marque de montres. C'est la première montre 100% française à pose de jeunes entrepreneurs de province qui me contactent. Et on réfléchit à un truc. Et là, je me dis, je leur propose en fait, ça tombe pile poil, de leur faire du contenu et d'associer des noms de des personnalités inspirantes et des gens qui pourraient pas se payer. Si tu veux, aujourd'hui t'as un ambassadeur, t'as une boîte de monde, tu veux un ambassadeur, faut vendre ta boîte pour te le payer l'ambassadeur quand tu commences. Et donc j'ai dit non, en fait c'est très win-win. Moi je fais mes interviews, les acteurs disent oui pour moi, je diffuse ça sur mes réseaux, avec un peu de chance ils diffuseront aussi sur leur réseau, mais c'était pas dans le deal, hein. Je n'exigeais rien évidemment. Et après je faisais une publication groupée avec la marque qui avait d'un coup sur son feed un Cluzet, un Gad Elmaleh qui parle de la planète, des enfants, de la passion pour leur art, et c'était super. Donc et après je l'ai fait aussi pour d'autres, notamment là j'adore un groupe hôtelier qui s'appelle Evoque, ils ont plusieurs 5 étoiles à Paris et puis maintenant à Venise, et là je leur ai on fait une série qui s'appelle In Room With, dans la suite de. Donc le dernier, c'était Horatica. Charlotte arrive dans l'hôtel, on voit l'hôtel, je demande un room service. Horatica m'ouvre la porte de la suite. Donc on voit l'hôtel qui est mis en valeur. Et avec Horatica, on va parler de voyage, évidemment, mais aussi de c'est quoi être une nana de 50 ans aujourd'hui quand on est actrice dans le cinéma, la parité, tu vois, des trucs voilà, qui parlent aux femmes.
Donc t'es devenue journaliste entrepreneur finalement.
Ouais, je me dis j'ai deux trucs en fait. Moi je suis comme ça toute petite entrepreneur de rien du tout. Hein. Quand je vois tes invités, je me dis mon Dieu. En fait j'ai vraiment encore cette casquette journaliste où je fais presse écrite, modération de débat, festival de cinéma, présentation du soir. Ça c'est vraiment mon job de journaliste avec effectivement mes interviews et la partie entrepreneuriale que j'espère développer. Pour plein d'autres, c'est ça, c'est m'associer à des marques. Il y a aussi un truc que je fais, mais là c'est non incarné, je n'apparais pas. Comme quand t'es journaliste, normalement tu sais raconter des histoires pour des marques. Ben je leur fais un peu de brand content, tu vois. Elles veulent un peu de visibilité, donc on va raconter une histoire autour du produit. Et voilà, je fais un petit pitch, je suis là sur les tournages. Ça c'est le début de ma deuxième vie.
C'est quoi ce que tu préfères aujourd'hui dans tes activités?
Je crois que j'aime bien les trucs des réseaux. Hein. Ouais. Ça va hyper vite. Et puis surtout, ce que je préfère aujourd'hui, c'est d'être ma propre boss. Alors, j'ai des moments de stress. Hein.
C'est le jeu.
Et pas que quand c'est les soldes. Non, bah écoute, oui, il faut des clients parce que tu peux pas bosser gratos. Mais en fait, ce qui est super, c'est qu'après ce burn-out, donc... J'ai repris confiance en moi et je me suis rendu compte que la personne qui me mettait des bâtons dans les roues, en fait, c'était moi. J'avais ce truc un peu de m'excuser d'être là, tu sais, un peu ce syndrome de l'imposteur que j'ai dû rectifier. Hein, je me suis fait aider pour ça, de reprendre confiance en moi. Et ce que j'aime, en fait, tu vois, là, parfois, je suis mal à l'aise parce que je suis pas tellement habituée à parler de moi, mais c'est me plonger avec quelqu'un et l'emmener là où peut-être on l'attend pas ou lui faire dire des trucs qu'il a pas envie de dire.
C'est le fait de rentrer dans des conversations profondes,
ouais.
Même en ayant des caméras, des lights et des micros finalement.
Et même en ayant aussi ouais, des instructions avant où on te dit il ne voudra pas parler de ça, où on reste bien sur le film, hein. On est d'accord, on ne fait rien d'autre.
Ouais, ça aussi ça m'arrive, tu vois, sur certains entrepreneurs
ouais.
Où effectivement on va me dire avant, ah oui mais ça, ce sujet-là, on va éviter, ce sujet-là, on va éviter aussi. Ça m'arrive de plus en plus fréquemment. Mais effectivement, moi, ce que j'adore aussi dans les interviews, c'est effectivement le fait de pouvoir creuser n'importe quel sujet avec n'importe qui. Et je pense que c'est l'essence même d'une bonne interview. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, oui, exactement. Il faut quand même, pour faire une bonne interview, je pense, il faut quand même aimer un minimum la personne. Ou alors être très impressionné par ce qu'il fait.
Ok.
Moi, j'ai été dans des situations délicates. Hein. C'est-à-dire, j'ai fait des interviews, par exemple, de Roman Polanski.
Ouais.
C'est hyper touchy, là, mais j'adore l'artiste qu'il est. Tu sais, il y a ce fameux débat, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? C'était en plein pendant les histoires. On a diffusé ça sur France 2. C'est remonté à la rédaction de là-haut, de trucs. On s'est fait insulter, mais moi, j'avais eu un accord. Mais j'étais très heureuse de poser des questions à Roman Polanski sur son cinéma, sur c'est quoi de faire tourner Adrien Brody, sur le pianiste, sur machin. Je suis évidemment pas rentrée dans les délires de ce pourquoi il était...
Bien sûr.
Tu vois et en fait, ouais, il faut bosser. Donc, bosser, ça veut évidemment, c'est regarder la bio de la personne invitée. Mais moi, quand je sais, c'est pas les bios hein, que je regarde, c'est je vais farfouiner très loin. Bon, heureusement, aujourd'hui, on a un truc génial qui s'appelle Internet, parce que moi, à mon époque, j'allais au centre de documentation. Et surtout te dire où est-ce que j'ai envie de l'emmener et puis mettre du rire en fait. Il faut vraiment les prendre, tu vois, hyper détente. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Moi, à mon époque, c'était quand même très au tout début. Tu vois, c'était tout le monde était en costard et machin. Maintenant, vous les entrepreneurs, vous êtes en jean basket.
En t-shirt.
Mais ouais, et c'est top.
Ouais. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens aiment bien les formats détente.
Ouais. Authentique.
Authentique, exactement. Je pense que ce qu'ils veulent, effectivement, c'est l'authenticité.
Ouais.
Et l'authenticité, on l'a notamment sur des podcasts longs. Et c'est ça qui est hyper cool, en fait.
Tu vois, là, regarde, je te dis aujourd'hui, typiquement, donc j'apprends. Et c'est ce que j'essaie de faire. Avant, donc en télé, tu connais l'image. Et puis quand pendant, t'as fait ça pendant 18 ans, tu sais comment on oriente une lumière, tu sais quelle tête t'as, tu sais quel est ton profil. Il faut que tu sois... Et c'est valable pour l'acteur, hein. Et eux, ils ont des heures de make-up derrière, le hairdresser à 3000 dollars. Toi, t'arrives, tu t'es préparée toute seule. Bon, bah là, tu vois, je vois ton setup, il est canon. Dès que je suis arrivée, je me suis dit, tiens, là, la cam, elle est trop basse. Non, mais, tu vois, pour moi, j'ai des actrices, je donne pas des exemples, hein. Elles arrivaient, elles faisaient monter la caméra très haut. Donc, pour les femmes, normalement, la basse, c'est au-dessus du regard. En général, le réalisateur, il aime pas parce qu'il aime bien plus ses bas, plus il a de la... Il était sorti au moment où j'en parle. Tu vois, la lumière, le truc. Et en fait, j'apprends... oui, il faut être soi d'abord. Donc, s'accepter. Hein.
Exactement.
Et lâcher prise, en fait. Mm. Chacun son job, tu vois.
Pour revenir sur ton burn-out, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu as eu ce burn-out? Est-ce que c'était justement le fait d'avoir enchaîné pendant 18 ans la tête dans le guidon sans forcément t'en rendre compte, ou est-ce que ça n'avait strictement rien à voir et c'était potentiellement relié à d'autres sujets?
Non, ça avait rien à voir avec le physique. En fait, c'était vraiment une fatigue psychique. Je n'avais plus envie. J'ai mis du temps à m'en rendre compte parce qu'en fait, je ne prenais plus de plaisir à l'antenne parce que j'avais moins de temps. L'émission était resserrée. J'étais plus ma propre rédactrice en chef, c'est-à-dire l'émergile était hyper cinéphile. Il me faisait une confiance aveugle. Un coup, on faisait une grande star américaine. Le lendemain, je parlais d'un film belge inconnu. Là, c'était plus codifié. Je veux pas critiquer, hein, ça a changé, c'est comme ça. Mais en fait, à un moment, t'as ton esprit qui te dit « Mais attends, mais j'ai un job en or, ça a pas la tête, tu te plains pas, t'y vas. » Donc j'y vais. Et en fait, à un moment, c'est le corps qui lâche. Et je crois que j'avais plus envie, j'avais fait le tour. Et j'ai la même crèmerie, le même truc. Ouais. Et je sais pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le confinement. Est-ce que je serais repartie direct en télé? Mais si ça se trouve, j'avais plus envie de ça non plus. Est-ce que j'aurais tenté l'aventure cinéma, tu vois, prendre en parallèle des cours du soir, parce qu'en plus c'est vachement bien pour tout, hein, pour la posture, pour le machin, c'est super de prendre des cours de théâtre. Ça j'aimerais bien, je pense. Non, je pense que j'aurais, en tout cas, si j'avais continué en télé, j'aurais pas refait des chroniques, j'aurais prié pour avoir un truc plus conséquent.
Ouais, donc cette pandémie, ça t'a permis de te ressourcer, j'imagine. Ouais. Aussi avec tes enfants, avec ton mari. potentiellement.
De me poser, non, y a ex-mari, donc okay, avec le chien et les enfants, et les copains, et les apéros Zoom à 17h, ouais. Merci. Non, mais parce qu'on ne pouvait pas se voir. Et puis après, tu te dis, parce que donc moi, je ne savais pas ce que c'était, un burn-out, tu te dis, bon, bah, ça va, je vais me reposer, je vais faire 3 grasses mat, je vais prendre de la vitamine C, du zinc, et c'est reparti. Mais non, en fait, c'est pas ça. Et t'as très longtemps, après encore, même quand tu vas mieux, t'as des symptômes, parfois. T'as un peu de brouillard, tu peux avoir des sensations dans la tête, et tu te dis, mais, et en fait, d'où l'intérêt de se faire suivre, hein, parce que tu te rends compte que t'es pas la seule. Et après, aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Mais aujourd'hui, je m'écoute beaucoup plus.
Ouais. Ma petite voix. Je sens qu'il y a un changement.
Ouais. Il y a un truc que j'ai pas envie de faire, j'y vais pas. Ou il y a un truc que je demande, ça se fait pas, je me dis, ok, fine, c'est que ça devait pas se faire. J'essaie d'être, tu vois. Et de moi me stresser surtout, en fait. J'étais dans un tel rythme que d'un coup, c'est très déstabilisant, tu vois. Et en fait, maintenant, je suis plus quality time. Alors j'ai moins de, on va pas se mentir, hein, pour le moment j'ai moins de cash qu'avant, mais je kiffe 1000 fois plus.
Sur ta vie d'après, si on peut dire, notamment sur les interviews, est-ce que tu veux me parler d'une interview qui t'a le plus marqué, sur celle que t'as pu faire?
Ah, il y en a eu plein, hein, c'est très compliqué. Hein, je les ai à peu près tous interviewés. Bah, il y a eu des anecdotes assez folles quand même. Russell Crowe, interview de Russell Crowe, Hôtel Bristol, donc ça s'appelle un junket. On est quelques journalistes à avoir été sélectionnés. On te prévient dès le début. Je sais plus pourquoi c'était pour un film de Ridley Scott. Peut-être c'était Gladiator, je sais plus. Ou non, c'était pas Gladiator. On te dit, t'as 7 minutes. Mais c'est pas une blague. T'arrives, t'as le mec, t'as bonjour, hello, t'as un chrono qui défile comme ça. Et toi, tu poses tes questions. Bon. Et on commence, je sais pas pourquoi, à parler à un moment de vignoble. Parce que j'avais lu, oui, qu'il faisait du rosé. Ah oui, il avait tourné un film dans le sud de la France. Et il me dit, j'adore, je me suis acheté une maison là-bas et je fais du rosé. Et là, moi, comme une andouille, je dis, ah ouais, mais moi, dans ma famille, on a des vignobles dans le Médoc et tout. Et au lieu de parler du film, tu vois, on parle là-dessus. Fin d'interview. Il y avait donc des journalistes qui attendaient, tu vois, avant-première, le soir et tout. Il me dit, mais j'aimerais bien vous faire goûter mon rosé. Tu vois pas que devant les attachés de presse, médusés, mais mortifiés, parce que t'as les publicistes et tout, il m'emmène. Mais ça a duré 10 minutes. Mais 10 minutes, c'est énorme. Et on s'est pris un verre de rosé au bar du Bristol. Donc ça, c'était quand même assez énorme. Jean d'Ormesson, c'était pas mal. Jean d'Ormesson, lui, il m'a fait un coup absolument hallucinant. Je l'interviewe pour un film, je sais plus, un truc avec Catherine Fro, je crois. Et l'émission, le truc se diffuse et il m'appelle, non, il m'envoie un petit SMS pour me remercier de l'interview et il m'écrit, Charlotte, je fête mon anniversaire, le temps, ça me ferait plaisir que vous passiez. Jean d'Ormesson, j'adore. Et je vois que c'est à l'Ambroisie, ce restaurant gastronomique de la place des Vosges, et je me dis, bah ok, bah j'y vais. Et puis, j'adore networker, je vais rencontrer plein de gens et tout. J'arrive à l'Ambroisie, je vois les gens, bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur d'Ormesson. Oui, c'est par là. Il m'ouvre la porte, salon privé, une table de deux. Non mais attends, tu vois pas le truc? Et si ça, en fait, il est génial, si ça, c'est pas du culot. Moi, j'étais persuadée qu'on allait être 60, Jean d'Ormesson. Et donc, j'ai dîné en one-two, en tête-à-tête avec Jean d'Ormesson, c'était passionnant. Il m'a ramené dans sa vieille Mercedes, il y avait des bouquins, il n'y avait pas de banquette arrière, il y avait des bouquins partout. Bon, ça, c'était des anecdotes, machin. Après, des interviews, j'en ai peu. Il y en a eu tellement, je sais pas, Tom Cruise, c'est le plus grand, lui. Hein. C'est le plus pro, il arrive, il serre la main à toute l'équipe. Il est assez hallucinant, il a une grâce, ce type-là. Incroyable, je sais pas, faudrait que tu me demandes.
Non, mais c'est des.
Je les ai tous faits.
C'est des super anecdotes. C'est quoi un peu tes futurs projets, tes objectifs futurs pour les prochains mois?
Continuer à me développer. J'espère que, franchement, je vais continuer sur mes séries là parce que j'adore ce que je fais. Pourquoi pas les faire avec des étrangers aussi? Après tout, avec des acteurs étrangers comme je faisais à la télé, tu vois. J'aimerais beaucoup revenir en radio. Ça me manque énormément. J'ai quand même fait 8 ans à RTL, 5 ans à France Inter. À un moment, je m'étais dit, pareil. Alors, la radio, j'ai pas demandé. Il faudrait que j'aille toquer aux portes, hein. Sinon, ça viendra pas tout seul. On verra ce que ça donne. Et sinon, eh ben, on est plein, on est très nombreux, mais je me dis, sinon, je ferai mon podcast.
Ouais, bah, c'est ce que j'allais te proposer.
Ah ouais?
Non, mais. Si tu veux créer ton podcast, ouais, c'est une très bonne idée, je pense.
Après, c'est à toi de m'expliquer, en fait, c'est quoi la différence? Parce que maintenant, les podcasts, ils sont filmés.
Ouais.
Donc, en fait, par rapport aux séries digitales, en fait, c'est-à-dire que je deviendrai un média. C'est ça, je ne ferai plus avec des marques.
Exactement. Le podcast, c'est la première brique pour créer son propre média.
Ouais.
Aujourd'hui, on a des podcasts vidéo, notamment sur Spotify. Mm-hmm. Spotify a lancé les podcasts vidéo en France en septembre dernier. Donc, le podcast vidéo, il est disponible sur Spotify et sur YouTube. Et puis après, le podcast audio est disponible sur toutes les plateformes, donc il est accessible pour tout le monde. Et c'est ça, en fait, qui fait l'essence même d'un podcast. C'est globalement des formats longs, des conversations profondes. Enfin, tu vois, typiquement, des choses que tu as pu apprécier aussi dans ta carrière.
Ouais, mais c'est ça, ça me plairait. Alors après, mais je pense que la réponse est oui, hein, sinon il serait pas venu sur mes séries. Tu te dis, tu lances ton podcast, il en faut bien un numéro un. Au début,
il faut marquer
donc,
le coup.
Au niveau des audiences, au début, ça patate pas énorme, tu vois. Donc voilà, est-ce que tu commences avec un acteur un peu moins connu, enfin je te dis un acteur. Moi, j'aimerais bien aussi faire des politiques, tu vois.
Ouais.
Christine Lagarde, Roselyne Bachelot, c'est des nanas, tu vois. J'aimerais bien faire un podcast autour des nanas. Alors, il y a beaucoup de podcasts sur les femmes. Mais je ferais bien un truc là-dessus.
OK. Bah écoute, on pourra en discuter, ouais, après le podcast. On passe à la partie bilan de ton aventure avec deux petites questions.
Bilan sanguin.
Exactement.
Et pas brillant, si je suis en pleine forme.
La première, c'est, alors peut-être qu'on en a déjà parlé, mais quel a été le moment le plus difficile de ton aventure? Est-ce que c'est ton burn-out ou est-ce qu'il y a eu des moments plus complexes?
Très clairement, c'est ma prise de décision. Ça, c'est mon départ des télématins. Ça a été très dur. Ça m'a demandé, je trouve, hein, c'est du courage. Mais il n'y a pas un jour où je me dis que j'ai pas fait le bon choix. Non, vraiment. Et après, après dans le boulot, j'ai eu des petits moments de. Je me souviens d'une interview de Scarlett Johansson. Elle était enceinte, donc en fait, elle a des circonstances atténuantes. Mais ce jour-là, j'arrive, je fais une interview, je rentre dans la pièce, je dis bonjour, je m'assois. Je dis bonjour, elle me salue pas. Elle était avec un acteur, c'était un duo. Je sais plus qui c'était, Chris Evans peut-être. Et je sens, c'est un truc de nana, je trouve la meuf que j'adorerais en plus, hein, vraiment, c'est la coolitude absolue, Scarlett Johansson. Au cinéma, je la trouve très désagréable. Et le lendemain, je suis à l'antenne, je présente le film, et William Lemergie me dit, donc on est en direct, il est 7h du mat, bon, et il me dit, alors, elle est sympa, Scarlett Johansson. Et là, je sais pas ce qui me prend, mais... Et là, je dis, non, elle est très mal élevée. Et là, je mets de pire, je dis... Et d'ailleurs, elle venait d'avoir un César d'honneur. Elle, c'était avant sa grande carrière. Et je dis, et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on lui ait donné un César d'honneur. Elle a fait 3 films sur fond vert. Et je sors ça. Mais tranquille le matin. Et ça passe. William se marre, parce que William, il m'a aussi pris pour mon franc-parler. 4 jours plus tard, le grand patron de l'époque de France Télévisions appelle William Lemergie. Le grand patron de la Disney avait appelé le grand patron de France Télé. Ils ont voulu me virer. Et William Lemergie a dit, je fais une confiance aveugle en ma journaliste, elle a une carte de presse. Elle dit bien ce qu'elle veut. Donc, il m'a complètement couverte. Hein, mais comme quoi, les têtes sautent. Hein, ça, j'ai failli perdre mon job. Après, j'ai eu l'agent de Scarlett Johansson qui m'a écrit. Vous avez cherché à faire du buzz. J'ai dit... j'ai 40 ans, si j'avais voulu faire du buzz, j'en aurais fait avant et autrement. Et après, il a réécrit et il a dit, en tous les cas, parce que j'ai dit je suis désolée, en tous les cas, on réorganisera une interview avec Scarlett, vous verrez combien elle est sympathique. Donc je suis sûre que c'est une fille hyper sympathique. Juste ce jour-là, j'étais enceinte, hein, je sais comment c'est, peut-être elle n'était pas... parfois tu te fais des petits coups de stress, hein, c'est politique la télé aussi.
Ouais, et puis on a tous aussi parfois des moments de moins bien, tu vois.
Exactement. Voilà. Ah, j'ai fait des beaux lapsus aussi.
Ah ouais?
Ah ouais, là il y en a un, il a bien performé sur le web. Un jour, je parle de la fête du cinéma, et je dis, c'est génial, c'est ce week-end, c'est 4,50€ la séance, il y en a pour tous les goûts, Et là, je veux dire, il y a des films cultes pour les enfants. Et je dis, il y a des films de cul pour les enfants. Et tu sais, ça passait le samedi matin. Et là, c'était Thierry Beccaro qui remplaçait et qui me regarde, mais qui est énorme fou rire sur le plateau. Non, mais parce que c'est ça, en direct, tu peux pas la refaire, en fait.
Ah bah non, non,
c'est clair. Des films de cul pour les enfants, c'était mythique.
Ouais, non, non, je pense que ça a dû faire rire beaucoup de gens. Ok, ma deuxième question par rapport à ça, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure ?
Bah, je sais pas, tous les festivals de Cannes, c'était assez inouï. Hein. J'étais, tout Cannes dormait. À 6h30, j'étais en duplex avec le palais du festival derrière. C'est pas un exercice facile. Ouais, les festivals de Cannes, les stars que j'ai fait là-bas, les DiCaprio, les machins. Après, je suis sûre que j'en... France Inter, Iggy Pop, j'avais interviewé Iggy Pop. J'ai eu des moments quand même assez assez dingues. Robert De Niro, Brad Pitt, enfin des trucs. Parfois, je me dis... Et j'étais traqueuse, hein. Après, une fois que j'étais dedans, mais même les gens, mes copains, ils hallucinaient. Tu fais quoi demain? Je disais, bah, demain, j'ai une interview de DiCaprio, de Christian Bale. Christian Bale, c'est un de mes acteurs. Il est extrêmement dur à interviewer. Il est pas commode du tout. Joaquin Phoenix pour Joker. Qui se fout de ma gueule parce que j'avais un jean troué. Il me dit, mais c'est quoi? C'est la mode? C'est à la mode. Donc, on commence à se marrer un peu. Mais il est réputé. Joaquin Phoenix, tu lui sors une question de travers, il se lève, il se barre, hein.
Ah ouais.
Ah ouais. Et en plus, on t'appelle avant. L'attachée de presse te met bien sous presse, quand même, hein. Elle te dit, ça, tu peux en parler, ça, tu peux pas en parler. Non, Meryl Streep. Ah, tiens, Julia Roberts, c'est énorme. Interview de Julia Roberts. Toujours au Bristol, décidément. Et là, on a un setup comme ça, avec un plan large. Tout est checké par le publiciste, machin. On tourne. Et déjà, elle n'est pas contente. Elle arrive, elle dit... Moi, j'adore cette actrice. Hein. Elle arrive. Elle est sublime, OK. Elle s'assoit. Elle me voit avec ma caméra filmée. C'était mon équipe. Et elle dit... Two cameras? It's unusual. Genre... Non, mais... Et là, genre, c'est bizarre, pourquoi il filmait la nana, tu vois. Premier truc, donc un peu tendax, c'était pas très... Et on part, et là, il y a le publiciste qui veut voir nos images, ce qui n'arrive jamais, parce que Julia Roberts a vu qu'on lui filmait les pieds. Mais en fait, on filmait, on avait un sublime plan large, elle avait des talons aiguilles, machin. Et donc moi, j'ai refusé de montrer les images, si bien que mon réalisateur est parti en courant dans les couloirs du Bristol, coursé par le publiciste de Julia Roberts, tu vois. Bon, et finalement, on lui a montré les images et ça a été. Mais c'est quand même des milieux un peu...
Ouais. Beaucoup d'imprévus, finalement.
Beaucoup d'imprévus, beaucoup de personnalités. Et surtout, souvent, les plus grands, en fait, c'est souvent le staff autour. Hein. C'est eux, un peu les cerbères. C'est leur job, mais voilà. C'est avec eux qu'il faut dealer, en fait.
Ouais, ouais, je suis complètement aligné avec ça. On passe à l'avant-dernière partie du podcast, sur les rencontres, le mindset et la vie perso aussi.
Okay.
Ma première question, alors je sais que des rencontres, t'en as eu des centaines, des milliers sur ton aventure, mais est-ce qu'il y en a une qui... est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure ?
Albert Algou. Alors Albert Algou, comme ça vous dit rien. Albert Algou, c'est lui qui écrivait avec Antoine Decaune et José Garcia tous les textes de Decaune et Garcia dans Nulle part ailleurs. Je sais pas si ça te parle. C'était tous les sketchs où il se déguisait. C'était...
Légendaire.
Non, mais légendaire. C'est-à-dire que, quand même, moi, j'étais étudiante et tous mes potes, c'était pareil. On n'avait pas Internet. Hein. On sortait de nos écoles respectives. On courait pour prendre le métro et pour être à l'heure pour Nulle part ailleurs, qui était la plus grande émission de télé du monde, quoi. Enfin, de France, plutôt. Et Algou, il était tintinophile. Hyper cultivé, donc spécialiste de Tintin, très drôle, il écrivait pour le théâtre, ça a été un de mes premiers boss à la radio. Et ouais, lui, il m'a tout appris. Et lui, passait aussi à la télé, il m'a filé plein de tips, et je le vois encore aujourd'hui. Et on est resté très proches. Il écrit beaucoup, il m'inspire beaucoup, et évidemment, bah, l'énergie, c'est sûr, hein, puisque c'est mon papa télé. Après, une rencontre... non, après, on va sur le perso, donc...
Alors moi, je fais des interviews depuis 2017. Je suis un jeune intervieweur, on va dire.
Ouais.
C'est quoi ton meilleur conseil pour faire la meilleure interview possible ?
Bah, tu le sais déjà, tu l'es dit très bien, je t'ai regardé en plus, parce que, en tant que journaliste, j'ai tout checké avant de venir. Surtout de pas se donner d'air, de rester hyper simple, hyper humble, mais de se mettre au même niveau que la personne interviewée. Ne jamais montrer, tu vois, il n'y a pas d'histoire de, et même avec les plus grands, mais t'as dû vérifier ça d'abord. Ouais. C'est souvent les plus grands en plus qui sont les plus généreux. Et où est-ce que t'as envie où est-ce que t'as envie de l'emmener en fait. Et surtout le truc le plus dur, bon là t'as une heure et t'as du temps, donc ça c'est génial, mais déjà t'as la chance que les interviewés te disent oui, hein, parce qu'ils ont quand même des, tu vois, c'est
je suis un privilégié, c'est vrai.
Non mais c'est parce que c'est intéressant, mais ouais. Tu vois, je vois t'interviews des grands patrons, des machins, les mecs ils ont des emplois du temps, tu vois.
Ah mais une heure et demie c'est
et puis c'est, on adore parler de soi, mais c'est fatigant, hein, parce que tu t'es filmé. Après, dans mon taxi, tout à l'heure, je me disais, mais merde, pourquoi j'ai pas dit ça quand il m'a posé cette question? Ouais, c'est de savoir que tu restes bien dans le lead de ton interview. Et là, je vois, t'as écrit, t'as tes points. Mais après, te laisser embarquer. Si elle t'embarque ailleurs, si tu sens que machin, et te re-regarder, hyper important. Après, on dit c'est un truc de gens qui se regardent et tout. Non, mais j'ai vachement appris en télé comme ça. Je me regardais en replay, j'en étais malade. J'aimais pas ma voix, je me trouvais moche. Je voyais tous mes tics. Et j'ai vachement appris la position des mains, du machin. Et j'avais un gros défaut. Je coupais la parole. Et je savais pourquoi. J'étais en direct et on a peur des blancs en direct. C'est comme en radio. Un blanc, bah ça passe pas. Sauf si c'est voulu. Et là, ça peut être beau, un blanc. Au cinéma, c'est beau, un blanc, quand c'est voulu. Et en fait, c'est ça le truc en interview. Bah, après, si le mec te fait un tunnel ou qu'il va... tu le coupes. Mais voilà, moi, j'ai appris vraiment à me taire.
Alors qu'en podcast, tu vois, les blancs, parfois, c'est nécessaire.
Ouais.
Tu vois, le petit moment de réflexion après une question, même parfois, on a des moments aussi, des séquences un peu émotion, où la personne, elle est à deux doigts de pleurer, où le blanc est nécessaire, tu vois.
Et ouais, tu as raison. Et au même titre que je déplore au cinéma, je trouve qu'il y a trop et systématiquement des musiques. J'adore les musiques, mais le truc qui vient souligner les vieux, c'est tellement beau, quoi. Les blancs, les silences, ça en dit long.
Ouais, je suis complètement aligné avec ça. Et ma dernière question pour cette partie, c'est comment est-ce que tu relies le pro et le perso ?
Eh ben, il faut être. Ça a été très compliqué aussi, parce que comme avant, je travaillais beaucoup, je faisais ce que je devais faire, et en fait, il faut une discipline. Quand tu bosses de chez toi, c'est pas possible, en fait. Un coup, c'est le chien qui te regarde comme ça, qui veut sortir dehors. Un coup, c'est, ah, je vais m'allonger, je vais faire une micro-sieste, machin. Il faut être hyper discipliné, en fait. Et je le suis pas tout le temps. Ouais. Et moi, je bosse beaucoup la nuit, en fait. Moi, j'écris beaucoup le soir, la nuit. Et en général, le matin, quand j'arrive à me lever, je fais du sport et tout. Mais il faut être discipliné. Parce que sinon, je veux dire, pendant le confinement, je sais pas comment c'était toi. Globalement, à part faire des cours de sport en ligne, là, on était globalement un peu des épaves, non?
Ouais, c'était une époque particulière. Hein.
Moi, j'allais promener mon chien. J'étais dans des scènes de film. Hein. Dans le parc, il y avait personne. C'était sublime. Et flippant à la fois. Heureusement, j'avais mes filles et tout, mais c'est comme un reset, ce truc, en fait. Hein.
Ça paraît très proche, mais très loin en même temps.
Mais c'est ça qui est fou, en fait, il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Et en fait, c'est comme si on s'était... Tout le monde... Il y a eu des drames affreux. Hein. Socialement, ça a été très compliqué pour plein de familles, plein d'enfants. Tu vois, les enfants battus et tout, l'horreur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été déconfinés tôt, hein, plus tôt que prévu. Mais... Ça a aussi été un super accélérateur, ça a été un détonateur de situation. T'as eu énormément de divorces, t'as eu énormément de baby-boom, donc en fait, dans le couple, c'est... En fait, on s'aime pour de vrai, ou en fait, je peux vraiment plus me la sentir. Ça a été un détonateur. Et en moi, en tous les cas, pour le boulot, j'ai dû me... Pareil, j'ai dû aller chercher des trucs au fond de moi.
On sent qu'il y a eu un avant et un après, tu vois.
Ah, complètement, ouais. Complètement. J'ai essayé, je crois que tout le monde a essayé d'écrire un livre. D'écrire un livre. Non, mais ça, un jour...
T'as tous les éléments pour le faire, en tout
ouais.
cas.
Ouais. Alors, je sais pas, évidemment, je te parle pas de j'adorerais écrire un roman, toi, ça, c'est autre chose. Non, mais il y avait une maison d'édition qui avait proposé de faire un bouquin de toutes mes anecdotes. ciné. Et j'aimerais bien le faire, mais après, tu vois, il y a encore ce côté un peu trop poli chez moi, trop propre. Je me dis, si vraiment je raconte les anecdotes, je vais pas me faire que des potes, tu vois. Et
ouais.
Ça m'ennuie. Et en même temps, c'est ce qui ferait vendre.
Ouais, je pense que c'est ça peut être intéressant.
Voilà.
Effectivement, tout dépend des anecdotes.
Voilà, c'est ça, exactement. Tout dépend des anecdotes.
On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Alors, j'ai découvert un truc, ça va paraître hyper con, mais je vais YouTube, Cédric Michel. Je choisis 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. T'as toutes les durées que tu veux. Je tiens à dire que ce n'est pas un partenariat rémunéré, ce que je dis. Et je me mets dans le noir et je me fais des méditations express. Et je ne médite jamais, normalement. Et grâce à ça, le mec a une voix. Et c'est un truc, je prends des trucs de méditation, de la joie, de gratitude, parce qu'en fait, je suis une boum-boum assez stressée. Et puis, et ça, c'est le plus dur, essayer de retrouver ma petite voix intérieure. Mais parfois, on la perd. Hein. Quand j'ai fait mon burn-out, j'ai perdu. Je savais plus ce que je voulais. Tu sais, normalement, t'as un petit truc qui te dit, j'ai envie d'aller là. Retrouver mon petit moi, essayer de me... Et je me... Ouais, c'est canon ce que tu fais, Charlotte. Tu peux être fière de toi. Bravo. Tu vois, je me fais du... Tellement je pars de loin là-dedans. Tu vois, à cause de l'éducation, du dénigrement, enfin du dénigrement, des carcans très stricts, où on t'a dit... Tu sais, ça, c'est là où je me dis vraiment tout ce qui se passe enfant, ça te forge pour plus tard. Donc voilà, écouter ou retrouver sa petite voix, l'écouter et puis se faire kiffer, c'est trop important. Et puis parfois il y a des matins, je me lève ou je sais pas, je me dis ça va pas être une bonne journée, on a des galères et je me dis mais en fait ça va être une très bonne journée.
Ouais, ok, bah très cool. C'est quoi ton plus grand rêve ? Est-ce que tu l'as déjà atteint ?
Bon, c'est très bateau ce que je veux dire. Ouais, là où je l'ai atteint, c'est que j'ai deux filles canons qui font la fierté de leur mère et qui n'ont précisément pas le problème que j'ai eu plus petite, c'est-à-dire toute la journée, je soigne leur ego sans leur dire tout le temps voilà, mais c'est
tu leur envoies beaucoup d'amour.
Ouais, elles tracent et ça c'est chouette. Ouais, je rêve de moins de stress, moins d'anxiété, mais pour tout le monde en fait, pour la planète. Après, là, tu me dirais, tu rêves de quoi ? J'ai d'une énorme casse-bas au bord de la mer avec deux chevaux, quatre Golden Retriever, quatre saucisses Dodge, là, quatre saucisses, des potes autour d'une table. Bon, voilà, mais ça, c'est pas...
Ça donne envie.
bienveillance, gratitude, kiff, voilà, j'ai envie de ça.
Un mix de tout ça. Et c'est quoi ta plus grande peur ?
Qu'on m'aime pas, je crois. J'aurais pu te dire mourir, mais non, parce que de toute manière, on n'a pas le choix, et c'est pas nous qui décidons. La souffrance, évidemment, ça, on a toujours peur. Non, c'est ce truc, et c'est précisément, il faut pas que ce soit ça. Avoir peur de pas être aimé, en fait. C'est toujours ce truc de l'imposteur, de vouloir plaire à tout prix. Et en fait, ben non, en fait. Et apprendre à dire non, mais quel kiff. Je commence vraiment depuis cette période-là, depuis le confinement. À dire non. Mais même à des potes, hein, un truc qui me saoule, tu veux pas y aller? Respecte-toi, en fait. C'est des bad vibes, ça va être des énergies. Si tu te respectes pas, toi, en faisant un truc que t'as pas envie de faire, même un dîner, un truc, tu vas être crevé, tu machin. Respecte ton toi.
Ouais, je pense que c'est un très très bon conseil.
Ouais. Mais c'est compliqué parce que tu peux passer pour une égoïste. Ah, elle est trop centrée sur elle. Ah, elle veut pas faire un effort, je vais pas bien, elle vient pas. Bah non, mais moi, en fait, là, je suis éponge. Je ne veux pas de tes vibes en ce moment. J'ai besoin d'être dans ma bulle, ça peut durer une heure ou deux soirs où j'ai envie d'être chez moi. Je respecte ma maison.
Très souvent, c'est un chemin de vie, finalement.
Ouais.
Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller ?
Ça dépend, je sais pas ce que t'aimes. Les séries dans ce moment, je regarde rien. Parce que le problème des séries, c'est que... Et moi, je suis très excessive. Donc, je suis capable de ne pas sortir de chez moi pendant 3 jours. Non, mais c'est grave, hein. De ne pas dormir. Donc là, je ne regarde plus. Non, là, dernièrement, je crois que ça a déjà un an, j'avais kiffé Sex Education.
Ah, trop bien.
Ah là là, avec Agence Cully, s'il te plaît. Gillian Anderson, hein, c'est ça, qui faisait la sexologue. Ça, j'ai
elle
trouvé.
Est incroyable.
J'ai eu, au début, parce que mes filles m'en parlaient, je me suis dit, c'est un truc de teen, de machin. T'sais. Et c'est vraiment.
C'est trop bien.
La radiographie de l'époque, elle est ouf. J'avais beaucoup aimé, mais c'était beaucoup plus posé. Et le côté Hollywood, machin, j'aimais bien Suits sur les avocats. Harvey Specter. Voilà. Et je me suis abonnée à son Insta et en fait, j'aime pas son Insta. J'aime la, son
ouais,
rôle.
Son personnage.
Fait. Voilà, ouais. Exactement. Après, des films.
C'est quoi ton film préféré all time?
All time, c'est très compliqué. Après, voilà. Tous les films de James Gray. Donc, James Gray, La Nuit nous appartient, Two Lovers, Ad Astra avec Brad Pitt, ça c'est un. Mon chouchou absolu, et c'est un entrepreneur né dans le cinéma, c'est lui, hein, c'est Xavier Dolan. Ce mec, à 20 ans, il sort de nulle part, il fait un premier film tout seul. Hein. Il se retrouve à la Casa des réalisateurs. Après, tous ses films sont en sélection ou en compétition à Cannes.
Très fort.
Il tourne, il réalise, il fait ses costumes, il fait ses bandes originales. C'est une resta, le mec. Il est incroyable. Lui, c'est vraiment une grosse star. Et ses films sont dingues. Lawrence Anyways, Mommy... juste la fin du monde avec Gaspard Ulliel.
Ouais.
Mes films préférés. Après, mon côté midinette, c'était il y a 40 ans à Out of Africa. C'est compliqué de pas chialer. Après, j'adore me refaire un Erin Brockovich. Je suis capable de me faire un Pretty Woman avec mes filles. Le film a 2500 ans. Tu sais, c'est des films feel good en fait.
C'est les petites Madeleine de Proust. Hein,
voilà. Hein. Après, au cinéma, moi, j'aime les films plutôt dark et torturés. Donc, j'adore le cinéma de Christopher Nolan. J'adore les acteurs comme Christian Bale ou Joaquin Phoenix. J'aime le cinéma qui fait pleurer, qui est bien bien darkos quoi.
Il me reste 4 petites questions. La première, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée dans cet échange?
Mais comment fais-tu pour être aussi belle? Voilà, une blague rapport au métier d'image. Celle-là, je pense pas qu'on te l'ait faite.
Non, elle est très bien.
est-ce que t'es heureuse?
Ouais, est-ce que t'es heureuse du coup aujourd'hui?
Eh ben, je suis plus heureuse qu'avant, même si j'ai été très 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 heureuse avant et qu'il y a eu des comme ça, je te l'ai dit. Et j'ai le mojo quoi.
Alors, j'ai rajouté une question sur la nouvelle saison qui s'appelle la question reverse, où c'est toi qui prends le rôle de l'intervieweuse. Bon, pour toi, c'est facile. Avec les autres entrepreneurs, c'est plus complexe. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser?
Est-ce que si tu avais eu mon âge, tu aurais voulu faire de la télé? Est-ce que tu as toujours eu envie de faire de l'image?
Pas du tout.
Pas du tout?
Non. L'image est venue après.
Et entrepreneur, pourquoi faire ce podcast d'entrepreneur? En fait, t'as voulu parce que t'étais toi-même entrepreneur au début ou parce que t'étais fasciné par les profils d'entrepreneurs?
J'étais étudiant en alternance. Je côtoyais des entrepreneurs via mon job.
Ouais.
J'avais aucun entrepreneur dans mon entourage, dans ma famille. Et du coup, je trouvais que le podcast, c'était un bon moyen d'aller les rencontrer et que ça allait potentiellement me créer une belle carte de visite pour aller les rencontrer.
Et alors, autre question très intéressante, je trouve, à force de côtoyer un nombre d'entrepreneurs en devenir ou très talentueux comme j'ai vu, c'est quand même un très bon moyen d'avoir des bonnes infos sur les bons placements.
Les placements financiers, tu veux dire?
Ouais.
Ah, écoute, j'en ai pas trop profité.
Non, c'est vrai, parce que tu rencontres quand même des gens qui ont des idées.
Et beaucoup d'investisseurs aussi.
Ouais.
Mais en tout cas, ça m'a motivé à entreprendre, donc à créer mon entreprise par la suite.
D'accord.
Voilà. Il me reste 2 petites questions. Est-ce que tu as une personne à me conseiller pour un futur épisode?
Ah, carrément, ouais. Alors, il y en aurait plein, mais je vois un peu ce que tu fais et je trouve qu'il est vraiment à sa manière entrepreneur. Bah, c'est Gad Elmaleh. Parce que Gad Elmaleh, et ça, c'était très intéressant dans l'interview qu'on a faite, il est quand même bluffant. On parlait, j'aime pas ce terme-là, tout le monde l'emploie, mais c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort. Le mec cartonnait, c'était le roi de la France, ok? Aussi bien sur scène qu'au cinéma, il y a vraiment eu un moment où Gad, il était là. Il l'est encore, hein. Mais là, à ce moment-là, il décide, de partir aux États-Unis. Et tout son entourage lui dit, mais t'es ouf ou quoi? Déjà, on va t'oublier, puis qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? T'as tout ce qu'il faut en France. Et j'ai découvert ça quand même. Je savais qu'il était parti aux États-Unis. Nous, on l'a vu sur le fauteuil de, c'était qui? Jimmy Fallon ou je sais pas.
Oui.
Faire sa danse, il était dément. Mais en fait, il est arrivé aux États-Unis. Les gens ne ne le connaissait pas, ne savait pas prononcer son nom. Il a joué dans des centres commerciaux pour des cachets à 100 dollars. Au fin fond, il est parti. Il est reparti from scratch, de rien. Et tu vois, ça, c'est extrêmement inspirant. Et il se remet tout le temps en question. Et puis là, même son dernier film, le film qu'il a fait, c'était assez osé, là, son truc sur la foi. Toute religion confondue, tu vois, surtout en ce moment, quoi. Tu parles de foi, c'est, et ça a été hyper bien accueilli. Ouais, Gad Elmaleh. Après, je pourrais te réfléchir à des acteurs, à d'autres gens, hein. Mais là, tu vois, tu me dis ça, tout de suite, je te dis, Gad.
Je note la reco.
Après, tu l'as sûrement, mais évidemment, il est tellement agréable en interview. Marc Simoncini.
Ok. Bah écoute, ça fait deux belles recommandations. Et ma dernière question que je pose sur quasi tous mes épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Alors bon, moi j'ai pas du tout l'expérience des grands entrepreneurs que t'interviewes, mais bah, pour moi être une entrepreneur, c'est de pas avoir peur de faire un truc différent, de partir de rien, enfin de rien. T'as ton expérience, ton truc, mais de en fait, voilà, enfin, en ce qui me concerne, j'ai un but et je sais que ça va pas être comme ça, donc je tire des bords. Et donc je me trompe, un coup j'ai du vent, un coup j'en ai pas. Et être un entrepreneur, mais c'est ne pas avoir peur de se manger des noms, de se prendre des portes, d'aller chercher, de retrousser les reins, d'aller chercher des marques et de se dire. Je suis une warrior. Après, il faut croire en son idée et être sûr, parce que on peut se tromper. Un entrepreneur, c'est se tromper aussi. Réadapter, tu vois.
C'est une définition qui me plaît.
Bon.
Ça va être les mots de la fin, Charlotte.
Ouais. J'espère que ça t'a plu. Super, François.
Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu.
Bah, c'est gentil.
J'ai vraiment beaucoup aimé ce podcast.
Je suis la seule entrepreneuse que tu interviewes qui avait pas l'internet. Non. J'ai regardé, il y avait des plus vieux que moi.
Non, pas du tout. Alors, en tout cas, j'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tes liens en description. Et on peut te souhaiter un maximum de kiff dans tes prochaines aventures. Et on suivra ça attentivement. Merci beaucoup, Charlotte.
Merci, Serial Entrepreneur.
Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes, et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.